Voilà, dernier jour. Alors, un sentiment, trois sentiments peuvent vous habiter pour le dernier jour de la retraite. Dernier jour complet. Ça s'est bien passé, vous commencez à vous sentir à peu près bien et vous dites « Ah, c'est déjà fini !» Ah, je voudrais bien rester un petit peu plus. Bon. Il y a celle pour dire « Enfin, une overdose surnaturelle !» Trop d'exercices spirituels, trop de sermons, trop de spirituels. Ouf ! Il manque j'aille respirer. Bon. Et puis, troisième attitude qui devrait être normalement celle que qui est souhaitable. Voilà. Un temps pour chaque chose. Un temps pour la retraite. Un temps pour ce qui suit la retraite. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est bien. Dieu fait toutes choses très bien. Alors, c'est pas interdit d'avoir un peu ces sentiments du déjà ou du enfin. Mais en tout cas, la crête, c'est de dire, bah, c'est bien. La volonté de Dieu, sa providence, fait bien toutes choses. Avant que vous ne partiez aussi, donc, chose importante. Alors pour celles qui disent déjà, pensez pas que c'est le dernier jour, mais pensez plutôt que c'est le premier jour. C'est le premier jour où vous allez connaître Dieu, et ce Dieu que vous avez connu dans la retraite, il va continuer de se faire connaître après la retraite. Pour ça, la retraite s'est bien passée, on verra ça dans un an, au résultat. Bon, celles qui disent enfin, il peut y avoir effectivement fatigue ou tension nerveuse ou effectivement pour bon une dose surnaturelle inhabituelle qui fait que bon la nourriture c'est bon mais faut pas trop en prendre. Alors pour celles-là, attendez de reprendre votre calme pour juger de la retraite ou du bien qui a été fait ou pas fait durant la retraite. Ne cédez pas aux premières impressions, aux premières paroles. Que, bon, vous aurez peut-être à dire sur cette retraite, en vous-même ou aux autres. En tout cas, donc, au sujet hier des résolutions, il me semble qu'une résolution qui devrait animer celle que vous prendrez, une, deux ou trois, soit ça peut être l'objet spécifique vraiment d'une résolution, soit ça peut être l'esprit animant, donc je vous ai dit, une principe sur le travail, une sur la prière, une sur la confiance. Il me semble que ce serait important que soit que vous preniez une résolution explicite, soit que vous en ayez, que vos résolutions soient animées de cet esprit. Il me semble qu'il doit y avoir une résolution en rapport avec l'attitude que vous devez avoir vis-à-vis de votre croix ou de vos croix habituelles. Voilà. Une attitude d'âme. Pas une attitude qui réponde aux sentiments, qui répondent à la sensibilité, qui répondent à l'individualisme, au subjectivisme, et vraiment une attitude d'âme. Qu'est-ce que me dit par rapport à cette croix qui colle à ma peau, à ma psychologie, à ma vie, à mes relations? Qu'est-ce que Dieu veut que je pense de ça? Vraiment. Pas la croix du voisin, pas la croix en général, ma croix à moi. Qu'est-ce que me dicte la foi? Qu'est-ce que me dicte la confiance? Qu'est-ce que me dicte l'amour? Qu'est-ce que me dicte la contrition, peut-être, par cette croix que j'ai peut-être méritée par mes bêtises? Bon. Alors, cette instruction va essayer de vous donner des éléments pour que vous ayez vraiment une attitude résolue, raisonnable, normale. Après tout, tous les hommes, tous les êtres humains, c'est souvent un des arguments victorieux de ceux qui prêchent la croix, c'est dans l'imitation de Jésus-Christ aussi, que vous en vouliez ou que vous en vouliez pas, vous aurez une part de mal et de souffrance dans votre vie. Et ils vont même plus loin. Ils disent... tous les saints, c'est la doctrine des saints. C'est pas la doctrine de tel ou tel saint. La doctrine des saints. S'il n'y a aucun mal, aucun souffrance, que tout est rose, alors là, craignez. Je vais répondre à Père Eugène. Dans les années 70, au moment où a commencé à apparaître le pentecôtisme protestant, puis ensuite dit catholique, charismatique de l'époque. Maintenant, il y a des choses qui commencent à bouger un peu, même dans le charismatisme. Et cette personne est allée assister à une session, et puis, donc, une retraite, si vous voulez, et puis ensuite, elle a continué dans un groupe charismatique. Et elle a dit, mon père, je suis resté, je ne sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois avec ce groupe, et tout me réussissait, comme il y a dans les journaux, là. La richesse, le bonheur, l'amour, tout, tout, tout. Et comme elle avait reçu une bonne formation chrétienne, elle dit, mon père, j'ai eu peur. Mon père, j'ai eu peur. Réaction chrétienne. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous avez des moments de bonheur, de paix, ou que vous n'avez pas qu'une grande croix, ou qu'il vous semble que dans votre vie, il n'y a pas grand-chose à souffrir, ça ne veut pas dire du tout que vous êtes damné, ou que le bon Dieu ne veut pas vous donner ce moment de bonheur pour que vous puissiez ensuite vous appuyer, car les moments de bonheur voulus par Dieu dans notre vie doivent nous servir d'appui pour les moments difficiles. Les moments de consolation doivent nous servir d'appui pour les moments de désolation. Vous voyez ? Mais ça, c'est l'instinct chrétien, c'est l'intuition chrétienne. Il y a eu le péché originel, les suites du péché originel, il y a du mal dans le monde, il y a du mal, sinon fait, du moins possible dans mon âme, donc c'est nécessaire qu'il y ait une certaine somme de souffrance, de peine, etc. dans ma vie. Nous sommes, on voit, c'est ce qui travaille les religions non révélées et les philosophies, sont travaillées par la nostalgie du paradis terrestre. Le bonheur sur terre. Nouvel âge. C'est doux. Notre mère la terre. Respirer. La bonne nourriture. L'air. Moi, je suis uni à la nature. Ou je suis uni à Dieu quand je fais ma méditation bouddhiste ou zen. Hein? Bon. Travaillé par ce désir du paradis terrestre. Nous le sommes tous et instinctivement, nous n'aimons pas la souffrance. Et encore moins depuis le péché originel, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas selon la lumière de foi. Alors bien voir ça, hein, c'est très important. Entrons dans notre sujet, plus à même, plus à cœur, plus au cœur du sujet. Donc la passion et la croix dans notre vie chrétienne. Autrement dit, bien, une certaine somme de souffrance, de difficultés dans notre vie, qui est normale, qui est normale. Et d'abord, donc, la cause de ces souffrances, je viens déjà de la dire un peu, eh bien, les suites du péché originel, bien sûr, mes péchés personnels, car les péchés nous attirent un certain nombre de punitions normales. Et puis aussi une loi de rachat, une loi d'amour qui fait que même si j'ai pas commis de péché ou pas de grand péché, voyant du mal autour de moi, je me sens appelé à porter une certaine somme de souffrance par compassion. Ce qu'on voit chez les saints, qu'on voit éminemment chez la Sainte Vierge. Évidemment, très éminemment, elle n'a aucun péché, le Christ aucun péché, la Vierge aucun péché. Mais sentant le malheur des autres, sentant le péché des autres, sentant les peines des autres, on prend sur soi de la souffrance, on prend sur soi la somme de souffrance que Dieu veut bien que nous prenions. Voilà. Donc, voilà pour un peu la cause. La cause quand même la plus courante, c'est vrai, c'est que nous avons des péchés, que nous ne sommes pas des innocents et que Jésus-Christ, innocent, lui, a porté pour nous, à notre place, en mon nom, les mauvais actes que j'ai posés. Ou bien si j'ai été préservé, d'ailleurs même les péchés que je n'ai pas commis, Dieu et Jésus-Christ aussi payé pour les péchés que je n'ai pas commis. Que j'ai pas encore commis et que j'espère que je commettrai jamais. Mais il m'en a préservé. Aussi, il a payé aussi pour ça. Il a mérité une grâce pour réparer ce qui a été mal fait, mais aussi pour nous préserver de ce qui pourrait être mal. Et a fortiori, c'est pour ça que vous avez Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, ou même la Sainte Vierge qui pourrait parler, se glorifier en rien de leur innocence ou de leur sainteté parce qu'elles savent que ça a été mérité par la grâce du Christ. Si des âmes sont restées innocentes, si des âmes n'ont jamais... Il y a des âmes comme saint Alphonse de Ligorie ou le Padre Pio, jamais un seul péché véniel délibéré toute leur vie. Quel mystère de grâce et de fidélité. Bon. Ça a été mérité par la grâce du Christ. Bien voir ça. Et mérite de grâce donc pour porter notre croix. Alors, normalement, cette instruction, voyez-vous, devrait porter sur ce qu'on appelle un peu dans la théologie spirituelle la mortification passive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, on parle mortification, se mortifier, faire mourir en soi ce qui est germe de mort. Et en principe, il y a ce qu'on appelle la mortification active, qui va consister, vous avez ce petit fascicule qui doit être ou en vente ou en prêt, là je l'ai emprunté, je le remettrai sur la table, Mortification chrétienne par le cardinal Mercier. Et donc, comme nous avons des germes de mort qui habitent à la fois notre corps, nos activités, nos sens internes, externes, qui habitent notre raison, d'après les quatre blessures dont nous a parlé Monseigneur, qui habitent nos jugements, nos déterminations, qui habitent notre volonté, qui habitent les manifestations extérieures de notre vie, qui habitent nos relations avec le prochain, eh bien, nous voyons la nécessité de mortifier, de régler, tout notre être. Alors, ce n'est pas sans relation avec la mortification passive. Alors, le rôle de cette mortification active du corps ou de l'âme, de l'esprit, des facultés plus spirituelles, c'est surtout de nous préparer à des biens positifs, évidemment. Car tout ce qui est les germes de mort ou les obstacles qu'il y a dans notre vie spirituelle, si on les écarte, la vie du divine entre en nous. Et la mortification active sera d'autant meilleure qu'elle imitera l'action que Dieu a sur nous pour le bien et pour le mal. Bon Dieu règle ses biens et ses maux. Donc je dirais la hiérarchie, c'est l'action de Dieu, voir comment Dieu nous sanctifie lui-même, un peu, comment il s'y prend, comment la providence travaille à nous donner ses biens et ses maux. Et plus notre mortification imitera la façon dont Dieu travaille notre âme, et plus cette mortification sera excellente. Donc, essayez de discerner ça. En principe, avec un certain âge, une certaine expérience, on voit bien comment Dieu s'y est prêt avec nous. Tempérament sensible, bon Dieu envoie des peines sensibles. Tempérament orgueilleux, il envoie des choses qui excitent un peu la colère, l'impatience et qui obligent à vivre dans la dépendance. Et dans la mortification active, bien voir que les mortifications du corps les plus visibles ou les mortifications les plus, disons, sensibles, corporelles, doivent être en dépendance des mortifications intérieures, de la mortification intérieure. Passer que ne rien faire dans le corps pour c'est se faire illusion sur la mortification intérieure. À condition, bien sûr, si on a une maladie, là, c'est Dieu qui a imposé. Il n'y a pas besoin de chercher loin, midi à 14h, pour se mortifier. Bon. Mortification du corps en dépendance de la mortification de l'âme, des facultés spirituelles, de notre cœur, de notre intelligence, de notre volonté, de notre imagination. Voyez. Cette hiérarchie, mortification du corps, qui est la plus humble mais qu'il ne faut pas négliger, qui rendrait illusoire les mortifications intérieures, mortification intérieure, et toute cette double mortification sous la loi de Dieu, sous la loi de la providence. Pour le corps, si j'ai une maladie, j'ai pas besoin de chercher loin. Si je suis en trop bonne santé, et que cette trop bonne santé crée pour moi des tentations diverses, c'est indication que je vais essayer de me mortifier. C'est une bonne santé, je pète de santé, je suis gourmande, je suis active, je fais du sport, je suis pleine forme, pleine santé. J'ai besoin de mortifier. J'ai besoin de mortifier. Plutôt souvent, c'est l'homme souvent qui est comme ça. Bon. Ensuite, dans mon âme, eh bien, je suis tempérament actif. Attention, faut mettre un frein. Trop actif, suractif, hyperactive. Bon, un frein. Attention. La voiture peut aller à 180 à l'heure, 200 à l'heure, faut pas qu'elle y aille constamment, sinon le moteur chauffe. Donc je peux effectivement faire des pointes à 180 ou 200, enfin plus maintenant avec les limitations, mais enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais faut peut-être que je roule à 120 pour aller un peu plus loin, plus longtemps et mieux. Et pour éviter que non seulement je chauffe mon moteur, mais je chauffe le moteur des autres ou je casse le moteur des autres. Celle-là, on peut pas la suivre. Elle nous met par terre. Elle pète de vie. Les tempéraments trop intellectuels. C'est moins courant chez les femmes. Non, je ne dis pas que vous êtes bêtes, c'est pas ça. Le père a dit, elles sont pas intelligentes, les femmes. Non, mais souvent, vous êtes moins raisonneurs que les hommes, vous êtes plus intuitives. En général, vous êtes moins tentés par l'intellectuel pur. Mais enfin, ça existe quand même. Attention, ça existe. Puis il y a la curiosité qui est par là. Intellectuel, tout vouloir raisonner. Clac, 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 clac. Pratique, mortification pour mon intelligence, vivre de foi et d'obéissance. et mortifier ma curiosité. J'ai des grands goûts intellectuels, il faut que je les mortifie. Et si je les mortifie, j'obtiendrai des grâces dans l'ordre surnaturel. Si j'accepte de 10 000... Pour certaines, il faut mettre plutôt la pédale d'accélérateur, parce qu'il n'y a rien dans leur intelligence. Enfin, pas les... Non, mais rien. Elles ne nourrissent pas. Bon, attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y aura des réclamations après. Le père, il est misogyne. Non. Mais elles mettent rien dans le moteur. Elles sont intelligentes. Elles ont une... Bon, mais elles mettent rien dans le moteur. Aussi intelligent que vous soyez, on n'a pas la science infuse. Il faut lire, il faut se former, il faut s'entretenir. Il faut être une rachitique, une sous-alimentée. Même si on est très intelligente, qu'on a des pensées personnelles brillantes, etc. Donc l'intellect, fuir la paresse et fuir la suractivité, la curiosité sur des choses inutiles. Mortification de la volonté, pas assez forte ou trop forte. Bon, paresse. Voilà. Là encore, pas pu le faire, mais des fois, en connaissant nos tempéraments, les tempéraments, nous sommes tentés selon nos tempéraments, nous avons mortifié selon nos tempéraments. Voilà. On ne mortifie pas un passionné comme on mortifie une lymphatique. C'est évident. On ne mortifie pas un flegmatique comme on mortifie un nerveux. C'est pas pareil. Voilà. Bon. Alors, bien, dans ce que vous choisirez activement, bien faire attention à tout cela. Alors, parvenu à un certain moment, je dirais, de notre vie spirituelle, de où savons à peu près ce que nous avons besoin comme pénitence, comme mortification, comme... Le bon Dieu y met de plus en plus la main. De plus en plus. Parfois, elle est un peu lourde même. Ben, il y met de plus en plus la main. Tu veux te sanctifier, c'est bien, etc. Je vais t'aider un petit peu. Soit parce que t'es trop active et aveugle, soit parce que t'es pas assez actif. Et pour cela, je vais te priver d'un certain nombre de biens naturels. Voilà. Alors, ça peut être d'abord la pauvreté. Pauvreté imposée. Ah, le père Capucin, alors c'est la pauvreté, les franciscains. Non, mais je parle de la pauvreté épreuve. Pauvreté pas voulue. Et pauvreté, vraie pauvreté au sens où imposée même sur du nécessaire. J'imagine, vous êtes une famille nombreuse, si brusquement le père il perd son travail. Qu'est-ce qu'on fait? Une épreuve, là. Bon. Pauvreté. Donc, que Dieu vient, permet dans sa providence. Épreuve de la maladie. Bon, il y en a qui n'ont jamais été malades, qui ne seront peut-être jamais, leur dernière maladie sera avant la mort. Bon, d'autres, c'est plutôt leur. C'est étonnant quand ils sont en santé. Ça les étonne. Eh oui, ça existe. Eh oui, bien sûr. Là, c'est vraiment la vocation de la maladie. Bon. La mort, pas la nôtre, parce qu'il faudrait ressusciter pour continuer de vivre, mais la mort des nôtres. La mort qui nous entoure. La perte des êtres chers. La perte de la réputation. Juste ou injuste. Perdre sa réputation. Une chose qui est très nécessaire à la vie sociale. Elle est bonne. À ce sujet-là, lorsque nous vous donnons en pénitence, des fois, rien que le don de la pénitence, déjà, c'est une humiliation. Il me donne les litanies de l'humilité. Oh, il doit penser que je suis une orgueilleuse. Vous avez donné deux pénitences, mon père. Oui, quand vous l'avez donné, et puis quand j'ai eu à la faire. Bon, les litanies de l'humilité. Mon père, quand je dis ça, j'ai vraiment pas envie de dire ça, quoi. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, mais j'en ai besoin, mon père. Oui, oui, madame, oui, monsieur. Le bon Dieu a voulu le désir de l'estime que nous avons des autres, le désir d'être aimé. Sinon, il n'y a pas de vie sociale possible, pas de vie familiale possible, c'est vrai. Mais depuis le péché originel, c'est un désir excessif. Et quand on se rend compte à quel point il est excessif, à quel point c'est un mal, à quel point il est le moteur de notre activité, alors on demande d'être libéré de ce mal. Et si on n'a pas, on ne le sent pas comme un mal, ou bien au moins, mon Dieu, faites reculer au moins ce désir. Il est toujours un peu excessif dans un sens ou l'autre. Donc du désir excessif d'être estimé, délivrez-moi Seigneur. Du désir excessif d'être aimé, d'être compris, d'être encouragé, d'être loué, etc. Et c'est un très très bon examen de conscience. Parce que c'est quelque chose qui pénètre un peu tout ce que nous faisons, ça. Plus ou moins. Du plus, du moins. Et les craintes. Crainte de ceci, crainte de cela. Crainte souvent excessive. Mettre de l'équilibre dans nos désirs et nos craintes n'est pas là la moindre des mortifications et que le bon Dieu est obligé de faire lui-même. Sœur Élisabeth de la Trinité nous dit « Équilibre dans les désirs et les craintes, dans les joies et les peines ». C'est un élément très important d'atmosphère de notre vie spirituelle. Quels sont mes plus forts désirs? Quelles sont mes plus fortes craintes? Quelles sont mes joies les plus intenses? Quelles sont mes peines les plus intenses? C'est un très bon élément de connaissance de soi, cela. Où j'en suis de mes passions, si vous voulez. Alors, perdre la réputation. Alors, les lire. Un esprit de vérité. Vous ne sentez pas à force, libérez-moi parce que, quand même, c'est bien agréable d'être estimé et d'être aimé, etc. Oui. Mais il y a une recherche excessive de ça. Alors, il faut freiner, il faut tempérer ça, il faut modérer ça. Et que Dieu nous y aide. Et il nous y aide dans la vie quotidienne. Par les contrariétés, par un peu les mépris de l'un ou l'autre, par les gaffes qu'on fait, etc. Ensuite, les persécutions. Bon, alors, pas de délire non plus, hein, pas de paranoïa, doucement. La victime, universelle, non. Le Christ, c'est la victime universelle, pas toi. Hein, tout doux. Tout le monde m'en veut, personne ne m'aime. Bon. Alors, les persécutions, ça peut exister de fait. Petite ou grande, persécution à coup d'épingle ou persécution plus importante. Persécution personnelle ou persécution... Bon, la persécution tradie. Ah, comment ça se fait? Ben, on est plein de défauts. Et le bon Dieu, ben, s'en sert. Et il s'en sert, y compris pour la hiérarchie qui veut telle et telle chose, bonne ou mauvaise, à juste titre ou à mauvais titre. Les conciliaires qui nous reprochent de pas être assez charitables, qui nous culpabilisent excessivement. Bon, il y a une indication. C'est peut-être pas totalement vrai, mais c'est peut-être pas non plus totalement faux. Les tradis à soupe à la grimace. Oh, ils sont pieux. Mais alors, le sourire... Ah ben, si c'est ça la religion, hein, oh là là, j'ai pas envie d'être tradit, moi. Bon, alors, entre le... et puis le... Il y a ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on tirait des leçons, des critiques de chrétiens, de causés, essayons de tirer le bon. Ils ont peut-être pas entièrement raison, mais peut-être pas entièrement tort. Alors, essayons de tirer le bon. Oui, ils vont à la messe les dimanches, mais ils sont à la charité avec le prochain. Bon, attention aussi là-dedans, parce que ceux qui ne pratiquent pas sont excellemment forts pour vous culpabiliser sur ce que vous faites de bien, parce qu'il y a le démon qui est derrière. Bon. Petite histoire à ce sujet du commandant Charcot, un grand catholique, mais qui avait un caractère de chien. Donc, je ne sais plus, il a travaillé je sais plus, au pôle Nord, au pôle Sud, je pense. Puis il a découvert un certain nombre d'îles, là, dans le pôle Sud. Et donc, il reprenait un peu vivement ses subordonnés, spécialement un matelot. Et un jour, un matelot a tellement été excédé, il dit, voyant qu'il était catholique et qu'il avait un si sale caractère, il dit, ah bah si c'est ça d'être catholique et pratiquant, bah alors, mon petit gars, si j'étais pas catholique, si je priais pas, si j'étais pas pratiquant, je t'aurais déjà fait passer par-dessus bord. Alors peut-être ma religion, je la pratique pas autant qu'il faut, mais si je l'avais pas, vous savez pas à quel point je serais mauvais. Je suis encore plus mauvais que ce que vous pensez, monsieur ou madame. Mais si j'avais pas la religion, vous verriez l'horreur. Des horreurs encore plus grandes que ce que vous pouvez voir ou deviner. Alors attention. Autant fuir l'innocence à tout prix que le culpabilisme. Hein. Prenons ce qui est selon Dieu. Oui, nous avons des défauts, et ils sont encore plus visibles du fait qu'une tache sur quelque chose de blanc, ça se voit plus. Les personnes pieuses ont de plus gros défauts, nous disent Bossuet et d'autres spirituels. Parce que la piété, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne un regard plus aigu sur les choses. Elle augmente nos passions. Elle fait que nous voyons mieux, et donc... Le jugement, la langue, nous avons tendance à être durs sur les autres, parce qu'on voit, on sait. Alors, il faut une vertu qui soit égale à côté, que le cœur soit au niveau de ce qu'il connaît, ou de ce qu'il pratique. Oui, je suis pas aussi bon que ma religion, c'est vrai. qui peut dire qu'il est aussi bon que sa religion? Qui? Ou que sa règle pour un religieux? Ou que son idéal pour un prêtre? Qui peut dire ça? Vous critiquez ma pratique de la vie chrétienne? Essayez-vous! Essayez-vous-même un petit peu. Et vous verrez si c'est si facile de batailler contre ses défauts. Plus facile de dire, ah, ils font pas, ah, puis l'église va mal, mais toi, qu'est-ce que tu fais, mon petit gars? Ah, moi, je vais pas aider l'église parce qu'ils sont comme ci, comme ça. Et c'est peut-être à cause de toi que l'église, en partie, va si mal. Voilà. Toi qui pratiques pas, toi qui juges l'église, etc. Bon, ensuite, la croix qui colle à notre tempérament, l'infériorité pour les dons naturels. Ah, j'ai pas en partage, intelligence, éducation, bon, les dons naturels. J'ai pas reçu de mes parents, de la nature, je suis pas très gâté. Voilà. J'ai pas la beauté naturelle, j'ai pas la force, j'ai pas l'intelligence, j'ai pas ceci. Et ça nous attire des humiliations. Manque de beauté, de force, d'aptitude, pas assez de mémoire, pas beaucoup de bon sens, plus ou moins équilibré. Manque d'intelligence, d'esprit, de jugement, moins de facilité au travail. Pas moins d'esprit organisateur, planeur, ou au contraire trop actif. Bon. Peut-être que si nous avions eu plus de dons naturels, surtout de ceux qui attirent l'attention, comme sont la beauté, l'esprit, l'éloquence, est-ce que nous en aurions fait bon emploi? Pas sûr, hein. Ceux qui ont justement de brillantes qualités naturelles risquent de ne pas comprendre la faiblesse. Quand il y a trop de force et d'intelligence, on risque de ne pas comprendre la faiblesse. Ne disons pas que si nous avions plus de talent, nous ferions plus de bien. Il n'y a rien de moins sûr que ça. Combien ont dû à leur perte à ces dons brillants qui séduisent les cœurs et exposent tant de tentations? Comptant se contenter de ce que l'on a et en faire bon usage. Croyez-moi, dit saint François de Sales, Dieu est un grand ouvrier. Avec de pauvres outils, il sait faire d'excellents ouvrages. Il choisit ordinairement les choses infirmes pour confondre les fortes. Il va prendre l'ignorance pour confondre la science et ce qui n'est rien pour détruire ce qui semble être quelque chose. Voilà pourquoi, avec saint Paul, pour mieux faire ressortir la toute-puissance de Dieu, avec les instruments les plus faibles et les plus vils, il a su opérer des merveilles. Les humbles prières d'une pauvre vieille femme ou d'un simple frère ont plus d'efficacité pour convertir ou sanctifier les âmes que toute l'éloquence d'un prédicateur. On n'oublie jamais que ce qui touche les âmes, c'est la grâce intérieure de Dieu. Prédication, œuvre, pour l'apostolat, ne sont que des instruments dont se sert le Saint-Esprit pour agir sur les cœurs. Infériorité pour les emplois, pour les fonctions. Voilà, dans l'ordre spirituel, intellectuel, manuel, que sais-je. Savoir accepter les situations emploi qui nous sont confiées. Il s'agisse de l'ordre civil, professionnel, l'intérêt de la société, la famille. Choisissons toujours, pour arriver aux vraies fins de Dieu, les moyens loyaux et honnêtes. Que de gens qui, ayant cédé à l'arrivisme et à l'ambitionnite, après sont dans des métiers qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut et commettent toutes sortes de péchés. L'humble acceptation de ce qui nous est offert, même dans l'ordre spirituel. Si nous croyons pouvoir faire mieux, il est bien possible qu'il y ait plus d'ambition et de présomption que de vrais ailes. Bon. Croyons à la puissance de la soumission, de la dépendance, qui n'est pas forcément synonyme de manque d'esprit d'initiative, toujours en dépendance. Être un bon inférieur, un bon second, un bon lieutenant, c'est très 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 précieux. Avoir conscience d'être instrument. D'autres encore s'imaginent que l'emploi qu'on leur offre dépasse leurs aptitudes. On peut le dire à ce moment-là, le manifester à tel ou tel supérieur. Ou bon Dieu directement. Une charge trop lourde pour moi, ça. Eh bien, raison de compte plus si c'est voulu par moi pour que tu comptes sur moi. Refuser un emploi à cause des dangers auxquels on y est exposé. Alors, il faut voir. Ordre de la prudence, ordre du conseil. Ensuite, et là c'est beaucoup plus difficile, le bon Dieu aussi peut nous priver de certains biens surnaturels. Les biens surnaturels non essentiels sont des moyens. Alors, on peut être momentanément privé de sacrement, privé d'un directeur spirituel, privé peut-être de l'aide des prêtres, etc. On ne sera jamais privé des grâces essentielles actuelles en vue de l'état de grâce et de la vie d'intimité avec Dieu. Dieu saura en tirer un profit. Mais c'est plus difficile, beaucoup plus difficile de se détacher de ces biens-là. Parce qu'on voit, le lien nécessaire qu'il y a entre ce moyen et la fin. Que de bien nous arrive, c'est vrai, par la confession régulière, par un directeur spirituel, par la communion, par un tas de biens, même par des prières qu'on s'est fixées, qui sont excellentes, qui sont bonnes, et pourtant, Dieu peut vouloir que nous en soyons privés, pour des raisons mystérieuses. Alors, bien sûr qu'il faut distinguer par rapport à ces biens spirituels, des biens essentiels, hein, puis des biens et absolument nécessaires, et puis les biens qui sont davantage accidentels. Bon, biens essentiels, biens plus accidentels, ou des biens adjoints, des biens conjoints. Alors, ceux nécessaires au salut, Dieu ne nous en privera jamais, il faut être bien certain de ça. Et on a le devoir de les rechercher, sinon on serait des quiétistes. Mais les biens, les variétés ajoutées à ces biens essentiels, comme sont par exemple les consolations ou les sécheresses, les tentations, les scrupules, la voie commune ou la voie davantage plus particulière. La règle, c'est de se laisser guider par une parfaite conformité à la volonté divine. Et là, c'est vrai qu'au centre de notre vie divine, au centre de nos désirs, nos craintes, nos joies, nos peines, est-ce que vraiment au centre de notre vie habite la volonté de bon plaisir de Dieu, sa providence ? C'est la règle de tous nos choix de jugement, de volonté, etc. La volonté de bon plaisir de Dieu. Car sa volonté est éclairée par une sagesse infinie et un amour infini. Donc elle est bonne pour nous. Et elle est la règle pratique de nos choix, de nos décisions. C'est le seul moyen d'éviter bien des souffrances morales et de profiter de celles que nous ne pouvons éviter pour progresser en vie spirituelle. Notamment, je pense en ce moment, certaines croix ou certains sacrifices que demande bon Dieu. Nous avons tendance à irriter notre croix. Dire par là, on ne la regarde pas avec assez de sérénité, et alors elle nous fait plus de mal que le bon Dieu ne voudrait nous en faire. Parce qu'on imagine, parce qu'on a ce qu'on appelle, Père Gilles, le vice de la disproportion, parce qu'on amplifie, parce qu'on ajoute la croix du passé à celle qui vient, on porte. Souffrir une minute à la fois. Souffrir une minute à la fois. Le passé, attention, c'est derrière. Le présent continue, le passé continue de vivre un peu dans notre présent, nécessairement. Pas dire, oh, ça va être encore pire, c'est déjà ça maintenant, mais que ça va être après. Alors, le directeur spirituel, les amis spirituels, le bon entourage qui nous aide à faire le bien, qui nous faisait beaucoup de bien, dont nous sommes séparés par la mort ou l'éloignement, c'est extrêmement pénible, c'est vrai. Mais il y a une grâce pour le vivre. En tout cas, pas de révolte contre cela. Ce serait faire injure à Dieu que s'imaginer avoir un besoin absolu de tel directeur, de tel prêtre, de tel ami. Le premier sanctificateur qui n'a pas besoin des autres, c'est le bon Dieu. Alors c'est bien utile d'avoir un signe sensible de sa présence, c'est vrai. Mais ce n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas tel homme, ce sera tel autre. Il saura nous en trouver d'autres ou même en certains cas se charger de suppléer par lui-même. Nous pouvons sans doute lui demander humblement d'autres soutiens, mais avec la conviction profonde que Dieu seul suffit. Bon Dieu peut suffire à tout. C'est vraiment rendre une grande gloire à Dieu que de croire et d'essayer de le mettre en pratique dans sa vie. Parfois même, il nous est utile que ceux qui semblaient nécessaires à notre progrès disparaissent pour nous détacher des appuis humains et nous jeter avec plus de confiance dans les bras de Dieu. Le grand directeur spirituel, c'est l'Esprit-Saint et la Providence. Qui peut faire 1000 pas en un instant, plus vite que tout, voilà. Si on lui est fidèle. Autre source de détachement, de par la volonté de Dieu, impossibilité de faire certains exercices spirituels. Ah, et pourtant, par ça, j'arrivais vraiment. C'est peut-être pas ce que veut Dieu maintenant. Elle ne peut pas faire oraison, mon rosaire, ou je ne sais pas quoi. Chose absolument excellente. Certaines pratiques de piété qui nous deviennent impossibles à cause de la maladie, à cause d'infirmité, à cause de fatigue. Écoutons ce que dit le père Balthazar Alvarez, un grand serviteur de Dieu du temps de Sainte Thérèse d'Avila. Ma gloire ne se trouve ni dans telle œuvre, ni dans telle autre, mais dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Enfin, c'est Dieu qui lui parle plutôt. Ma gloire ne se trouve ni dans telle œuvre ni dans telle autre, mais dans l'accomplissement de ma volonté. Or, qui peut savoir aussi bien que moi ce qui est propre à me glorifier ? Et c'est vrai des meilleurs exercices, y compris la Sainte Messe. Comment ? Oui, y compris la Sainte Messe. Et même, on peut dire, certaines âmes qui arrivent, parce que le bon Dieu a fait comme ça, de ne pas pouvoir aller à la messe tel ou tel jour, ou pendant une telle ou telle période, elles sont en état de messe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Elles se sacrifient avec le sacrificateur. C'est peut-être les plus unis aux sacrifices qui sont faits sur les autels quand elles sont privées sans leur faute. Il reste d'ailleurs, on peut toujours s'unir à telle ou telle station du chemin de la croix. La Sainte Messe, la Communion, la visite au Saint-Sacrement. L'exemple de Saint Alphonse de Ligorée qu'on a fêté le 1er août. Il souffrait de ne pouvoir dire la Sainte Messe qui lui avait autrefois procuré tant de consolation. Mais il acceptait généreusement ce sacrifice. « Vous ne voulez plus au Jésus que je dise la messe. Fiat, que votre volonté soit faite. » Alors, autre chose du bon Dieu, les tentations. Il ne s'agit pas de courir dedans, les tentations, on est d'accord. Mais enfin, en attendant, le bon Dieu, il en permet un certain nombre dans notre vie, et du corps, et de l'âme, et des personnes qui nous entourent. Et souvent, plus on a l'œil fixé sur le ciel et sur la perfection chrétienne, et plus on les sent lourdes, ces tentations, et fréquentes, et graves, et insidieuses. Et pourtant, cette épreuve est nécessaire. Du reste, les tentations d'orgueil, souvent plus dangereuses encore, n'épargnent personne. La tentation est un moyen de purification, c'est sûr. Elle vient réparer dans notre vie ancienne les manques de vigilance, les manques de fidélité, les manques d'énergie. Elle vient nous rappeler nos lâchetés, nos chutes, nos faiblesses. Voilà. Elle nous humilie, la tentation. Elle nous oblige à des efforts plus énergiques. Le père Faber dit « Nos croix nous lancent vers le ciel ». C'est vrai, belle image. Nos croix nous lancent vers le ciel. Ensuite aussi, les tentations, c'est un peu un coup de fouet. On s'endort, on fait moins bien, on cède à l'orgueil. Ça nous réveille. Et puis, en sentant sa faiblesse, on comprend mieux celle des autres. Très utile. C'est à la fois un moyen d'humilité, de charité, de compassion. Quand on sent vivement son impatience, on se jette avec amour dans les bras du bon Dieu. Et surtout, ne craignons pas au sein des tentations d'être vaincus. À la mort de Saint Gérard Majella, un frère rédemptoriste, un vieux frère rédemptoriste, qui dit « Comment si jeune ?» Ou c'est non, c'est Saint Gérard Majella à côté d'un rédemptoriste qui est en train de mourir. Comment ça se fait qu'il jouit d'une telle gloire dans le ciel, qu'il est mort avec une telle paix ? Parce qu'il a été beaucoup tenté. Ah bon ? Oui, parce qu'il est beaucoup tenté. Et il a fait beaucoup confiance à Dieu, et il a posé beaucoup d'actes d'amour. C'est pas parce qu'on est plus tenté qu'on est plus mauvais. C'est pas vrai. C'est pas toujours vrai, loin de là. Et puis, le chef Jésus-Christ l'a voulu être tenté, et comme un grand général en chef, il nous a mérité la grâce, eh bien, de triompher à notre tour, comme des bons petits soldats. Vu que nous nous attachons à lui avec toute notre confiance. Hein, et confiance, j'ai vaincu le monde. Quelle parole, ça ! Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Et ça veut dire j'ai vaincu non seulement le monde pour moi, mais je l'ai vaincu pour tous mes élus. La petite préface du combat spirituel, là, elle est très belle là-dessus. Un petit mot de préface avant le combat spirituel par le père Scupoli. Il dit qu'il est le chef, le capitaine, qui a remporté par avance déjà toutes les victoires de ses élus. Donc il faut nous tourner vers notre capitaine lorsque nous avons à combattre. Très juste. Écoutons saint François de Sales. Vous aimez la foi et ne voudriez pas qu'une seule pensée vous vînt contre elle. Il vous semble que tout la gâte. Non, ne pensez pas que le frifili des feuilles, là qu'on entend en orage, c'est encore plus fort ici, là dans le parc, ne pensez pas que le frifili des feuilles soit le cliquetis des armes. Il y a moins de tentations déjà, ça y est, c'est la guerre. Attention, bon, c'est peut-être les prémices de la guerre, donc faisons attention. Hein. Bon. Comme Socrate avec son épouse. Vous connaissez cette histoire de Socrate avec son épouse. Particulièrement acariâtre, la dame. Et dès le matin, elle commençait à crier. Alors un matin, c'était tellement fort qu'il a dû sortir de la maison assez vite. Et La mégère non apprivoisée lui a envoyé un seau d'eau par-dessus. Alors, réaction stoïque, je ne sais pas si c'était chrétienne, mais en tout cas stoïque et amusante. Tiens, je me disais bien qu'il y avait de l'orage et maintenant voilà la pluie. Bon, alors, ne pensez pas que le frifili des feuilles soit le cliquetis des armes. Notre ennemi est un grand clabaudeur. Il peut aboyer, il ne peut pas mordre, dit saint Augustin, sauf ceux qui s'approchent trop de lui. Ne vous effrayez pas de ces fanfares. Hein, j'ai eu la grosse caisse, du bruit. C'est très beau de voir les pères du désert qui chassaient parfois le démon par une petite remarque humoristique, en méprisant sa force. Ne donnons pas de la force au démon en, je dirais, fortifiant nos tentations. Quand on les regarde un peu trop en face, surtout les tentations d'impureté ou de blasphème ou de foi, on risque de les grossir. La fuite, diversion, fuite. Il me dit de regarder par là, je regarde juste à l'opposé et je file dans l'autre direction. Laissons-le aboyer, ne nous mettons nullement en peine. Il a bien plus crié autour des saints, ne nous effrayons pas de ses fanfares. Il ne peut nous faire aucun mal sans la permission divine. Il peut seulement s'effrayer, nous faire peur, et par cette peur nous inquiéter, et par l'inquiétude nous lasser, et par la lassitude nous faire lâcher. Bien comprendre ces étapes de la tentation. La suggestion insidieuse, les commencements de délectation. Puis après, alors, direction opposée. Et là, la mortification habituelle et la confiance en Dieu nous aident beaucoup, évidemment. Ayons la crainte de Dieu, mais que ce soit une crainte amoureuse et confiante. Les tentations, si violentes soient-elles, ne sont un mal que lorsque nous y consentons. Sentir n'est pas consentir. Les impressions, les imaginations, même très vives, ne sont pas péchés. Elles ne le sont que si la volonté accepte avec délibération. Or, lorsqu'habituellement on aime Dieu, on ne peut consentir d'une façon délibérée au mal sans le voir clairement. Si donc on doute, écoutez bien les scrupuleuses, si donc on doute d'avoir consenti, il faut interpréter le doute en sa faveur et croire qu'il n'y a pas eu de faute grave. Le tourment des directeurs pour les scrupuleux et scrupuleuses. Rabâcher toujours la même chose. On se lasse, non. Dieu nous en garde. Bon, mais en tout cas, si on veut sortir du scrupule, esprit de foi, obéissance et simplicité. Éviter de raisonner. Dès qu'on commence à raisonner, on raisonne de travers. Ou le démon nous fait raisonner de travers. Enfin, pas le moindre des biens, des maux qui nous arrivent, les chutes. Alors là, consultez le chapitre 25 ou 26 du combat spirituel, ce que doit faire après une chute. Nous tourner tout de suite vers le Dieu de bonté et de sagesse, nous affermir à nouveau dans sa bonté, il continue de nous aimer, non seulement malgré cette faute, mais peut-être à cause de cette faute, il nous aime, parce qu'il sait qu'il va y avoir une effusion de sa miséricorde à la suite de cette faute, dès qu'elle est reconnue et qu'on en reconnaît et qu'on reconnaît que Dieu est à la fois médecin et médecine. Les chutes. Que les chutes nous trouvent plus confiants, plus vaillants. Vous connaissez la parole de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus. Quand bien même j'aurais commis tous les crimes de la terre, ce n'est pas parce que je suis innocente ou que Dieu m'a préservé. Mais je sais ce qu'il a fait pour l'enfant prodigue, pour Sainte Madeleine, pour la femme adultère. Je ne peux m'effrayer. Je sais à quoi m'en tenir sur son amour et sa miséricorde. Cette multitude d'offenses s'abîme en un clin d'œil comme une goutte d'eau. Comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Beaucoup aimé cette expression un jour de Monseigneur Felet. Un minuscule charbon dans un océan de feu. Oui, un océan de feu. Voilà. Il enflammera d'amour. Les craintes. Il y a des âmes qui vivent toujours la crainte. Perpétuellement. Crainte de ceci, crainte de cela. Bon. Crainte des toiles d'araignée, crainte de tout. Crainte des ombres, crainte. On craint les hommes, on craint les choses, on craint les événements. On craint tout ce qui peut nous faire de mal. Les âmes peureuses, on peut l'être naturellement ou par les épreuves qu'on a eues dans la vie. Ces âmes-là sont appelées une grande confiance, un grand amour. Les hommes qui peuvent nous nuire, nous faire du mal, les tentations. Dieu protège ceux qu'il aime. Le tourment des scrupules. Confiance en Dieu, obéissance, foi, je viens de vous le dire. Puis en plus, on n'apprend pas à se gouverner soi-même. Ensuite, qu'est-ce qui peut être encore intéressant? Ah, dans les croix, les sécheresses. La privation de certaines grâces d'union plus intenses, plus fortes. Les sécheresses. Pourtant, dans la sécheresse, on avance. On avance, si on reste calme, si on pose des actes de foi et d'amour, on avance. Voilà. Et des fois, les consolations peuvent nous faire du mal, parce qu'on n'en fait pas tout l'usage que Dieu voudrait. Et puis, les consolations, on en devient propriétaire. On s'approprie. Elles ont touché les saints, ils en ont gémi. Et le saint Alphonse, par exemple, qui cite dans une de ces lettres-là. J'ai une si grande désolation spirituelle que je ne trouve plus Dieu ni dans l'oraison, ni dans la sainte communion. La passion de notre Seigneur, la sainte Eucharistie, rien ne me touche. Je suis devenu insensible à toute dévotion. Il me semble qu'une âme sans amour, sans espérance, sans foi, je suis comme abandonné de Dieu. Eh bien, au sein de tout cela, qu'est-ce que je redis? Jésus, vous restez mon espérance, mon amour. Je ne mérite pas que vous me donniez des consolations et de douceur. Pour moi, je vous ai offensé, j'en suis indigne. Voilà tout ce que je désire, accomplir votre volonté dans tout le cours de ma vie et disposer de moi comme il vous plaît. C'est souvent les fêtes des épreuves d'union les plus intenses, la vie spirituelle, où il faut pratiquer un abandon plus grand, une confiance. Quand Saint-Hervé Enfant Jésus, par exemple, te disait « Je chante ce que je veux croire », une épreuve de foi toute spéciale. Le démon en a le plus sur toi notre foi. Je lisais là pendant la retraite, en préparant une instruction, une sainte âme qui a eu des lumières sur le Saint-Esprit disait « Souvent des fautes contre l'amour et l'espérance, nous nous relevons relativement facilement. Si le démon réussit à entamer notre foi, c'est ce qu'il y a de plus pénible. Parce que c'est l'axe des deux autres. » Alors protégeons notre foi en posant souvent des actes de foi et d'humilité. Et nous ne laissons pas faire. Il en veut à notre foi, le démon. Le curé d'Ars a dit, si nous gardons la foi, nous pouvons recouvrer facilement espérance et amour. Si nous venons à défaillir un peu dans la foi ou à faiblir dans la foi, alors il est bien plus difficile de pratiquer l'amour et l'espérance. Mais souvent, c'est vrai qu'en posant des actes d'amour, implicitement dans ces actes d'amour, il y a foi et espérance. Donc il faut souvent surtout poser des actes d'amour, d'adhésion à la volonté de Dieu, parce qu'en eux-mêmes, ils comportent la confiance et la foi. Alors, saint Bernard nous dit qu'il y a 3 degrés d'acceptation de la croix. Ceux qui sont au début et qui n'est pas débutant, au moins dans certaines croix, mus par la crainte, ils endurent la croix du Christ, patiemment. Ils font de nécessité vertu. Quand on progresse, c'est davantage la confiance et l'espérance, on porte même avec une certaine joie, pas de la terre, pas sensible, mais une certaine joie. On sent qu'il y a un bien spirituel là-dessous. Et puis ensuite, ce qui est désirable, c'est de pouvoir l'embrasser avec ardeur, franche volonté. Donc si on est débutant, pour toutes nos croix ou certaines de nos croix, la crainte de Dieu vient nous aider. Nous aimons mieux souffrir que d'offenser Dieu. Et tout en gémissant sous le poids de la croix, au moins la patience nous voit résigner. Se résigne, au moins. Quand on va progresser, la soif des biens célestes, et en principe c'est le niveau moyen de toute retraite, niveau habituel de la vie chrétienne, je pense, des retraitantes, l'espérance des désirs célestes. Sachant que, bien, qu'on acquiert ces biens célestes que par la rédemption et par la croix. On sait que chaque souffrance nous vaut un poids éternel de gloire. Et bien sûr, après, les motifs les plus puissants, alors Pars dit que c'est la méthode assimile pour la croix, donc d'abord le premier degré, puis après le deuxième, puis après le troisième, et j'en suis où, à quelle leçon? Non. Bon Dieu fait un peu tout ça. Et des fois, il fait aller du début, et puis pour certaines choses, il nous fait aller à la pointe d'union. Puis après, il nous fait redescendre, il nous fait un petit peu voyager, histoire de ne pas se situer sur l'échelle de la perfection. Où est-ce que j'en suis? Quelle demeure de Sainte Thérèse d'Avila? Les purifications passives, actives? Bon. pour glorifier Dieu, pour se conformer plus parfaitement à notre Seigneur, certains vont au-devant des croix. Laissons-les venir, le bon Dieu, en les laissant venir, le bon Dieu va nous enseigner vers quelle croix nous pouvons doucement faire des pas, pour les embrasser avec ardeur. Certaines même donc vont s'offrir comme petites ou grandes victimes, les petites victimes de l'amour miséricordieux, ou les grandes victimes que sont ces âmes expiatrices. C'est le dernier degré de l'amour de la croix. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver pour la croix? Évidemment, l'acquisition des mérites, même si nous ne comptons pas sur nos justices, comme dit Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. Fortification de notre volonté. Sens plus aigu de la vertu. Constance plus grande dans le bien. La croix est le signe des œuvres de Dieu, bien sûr. Exercice de notre force, donc souffrance de compassion, nous en avons parlé. Non, mais surtout les progressants, donc le deuxième degré, c'est ça qui nous intéresse. On pense plus souvent au bien du ciel, et donc on a plus de désir et de courage d'y adhérer. Parce qu'on sait qu'on va être plus unis à notre Seigneur. Ça va faire que peu à peu, eh bien, nous allons plus nous détacher avec beaucoup plus d'efficacité des plaisirs sensibles, des satisfactions de l'orgueil ou de la richesse. Et même de certaines joies spirituelles pour des joies plus fines, même si on a goûté déjà un bon nombre de joies spirituelles, bon Dieu, eh bien, affine notre goût, ouvre nos sens spirituels, et fait que nous pouvons nous passer de certains biens spirituels en vue d'autres qui sont plus grands. Et ça, c'est un peu la pédagogie de la croix, on pourrait dire. Et bon Dieu, vous nous dilatez le cœur. La croix dilate le cœur, c'est vrai. Il ne faut pas qu'elle nous ferme sur nous, la croix. Il faut l'ouvrir par des actes de foi, des actes d'amour, des actes de confiance, des actes de contrition. Ensuite, bien sûr, la croix, nous avons besoin d'une conversion perpétuelle. La croix nous convertit. La croix nous convertit. Si nous avons trop de biens sur la terre, nous sommes tentés de chercher notre ciel et sur terre. Nous risquons d'oublier nos devoirs de chrétiens. Nous risquons d'ouvrir la porte un peu au péché, au moins la faiblesse. Mais vienne la douleur. Le mirage s'évanouit, les tristes réalités apparaissent telles qu'elles sont. Et de nouveau, nous sentons le besoin de Dieu. Avec les insensés dont parle la sagesse, nous reconnaissons que nous nous sommes trompés, lourdement trompés. Rentrant en nous-mêmes, comme l'enfant prodigue, nous entendons de notre conscience la voix de Dieu nous dire « Sache et vois combien il est mauvais et amer d'avoir abandonné ton Dieu. » Alors, l'amour de la croix, c'est une grâce. Elle est préparée par la mortification active habituelle et les mortifications reçues de Dieu. Mais c'est dans la mesure où on va mieux accepter ce que Dieu donne que va grandir en nous cet amour d'abord initial, en germe, puis plus grand, puis toujours plus grand, jusqu'à ce qu'il y a vraiment cette grâce totalement gratuite que Saint Louis-Marie Guenonfort appellera, sous son angle de sagesse, de connaissance, la grâce de la sagesse éternelle. Le don de sagesse, en fait, don absolument gratuit, mais que nous pouvons préparer avec la grâce de Dieu, d'une certaine façon, en ôtant les obstacles, en laissant faire Dieu, en agissant comme Dieu veut que nous agissions. Moyennant quoi, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, notre amour va prendre différentes qualités, différentes propriétés. On va en avoir quelques-unes, pas le temps, là, faut achever. Donc, l'amour au premier degré serait surtout un amour pénitent, de réparation. J'ai péché, j'ai fait des péchés graves, je dois aimer la croix, c'est elle qui me guérit. Amour pénitent, réparateur, accepté, franchement. Un amour pénitent, de réparation. Ensuite, donc, progressivement, je commence à mieux me complaire dans certaines croix habituelles ou certaines mortifications habituelles, parce que j'y vois vraiment l'action de Dieu. Soit celle que j'ai choisie, soit celle que le bon Dieu a choisie pour moi. Ensuite, donc, en principe, va croître, je vais vouloir du bien à Dieu, et je vais me rendre compte que si je veux du bien à Dieu, il faut que j'accepte un peu plus de mal pour moi, ou que le mal qui existe déjà en moi, pas le mal moral du péché, mais le mal de peine, je dois le vivre avec plus d'amour. Et alors, ma bienveillance, je vais m'apercevoir que je peux donner quelque chose à Dieu. On dit que les anges nous envient ça. Les anges nous envient le fait que nous puissions avoir la croix. Ils ne peuvent pas avoir la croix, eux. Il a envie parce qu'il voit que c'est source d'amour. C'est assez curieux. que les anges puissent nous envier. Bienveillance pour Dieu va grandir. Jusque ça arrive vraiment à l'amour d'amitié. Vous pouvez lire à ce sujet, c'est magnifique, dans le manuel bleu, là, celles qui l'ont, la prière de Jésus, véritable ami, du père de la colombière. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Celui qui sait porter nos maux, qui nous soulage, nous encourage. Et cette belle parole, je ne serai jamais si près de vous que quand je serai apparemment le plus loin de vous. Je serai plus sujet à la miséricorde et à votre bonté. Et alors, sans y mêler l'imagination ou le dolorisme ou la disproportion, cet amour victimal, notamment l'amour de la victime de miséricorde. Cette victime de miséricorde. Alors certaines dirent victime déjà, ou elles disent quelles sont les croix qui vont me tomber dessus si je m'offre comme victime. Parce que nécessairement, se donner pleinement au Sacré-Cœur ou à Marie, ça veut dire tout de suite des croix. Pas nécessairement, pas du tout même nécessairement. Mais c'est simplement une orientation, un regard de l'âme qui fait que cherchant à compatir à notre Seigneur, à compenser ou à réparer, ou à compléter, voire compléter les souffrances de notre Seigneur, à vouloir rayonner la miséricorde, Dieu va me revêtir d'une force que je ne connaissais pas jusque-là. C'est très beau, vous pouvez le relire, celles qui ont le manuel bleu, l'offrande à l'amour miséricordieux. C'est incroyable de voir tout l'amour qu'il y a de la croix dans cette, et en même temps une très grande confiance. La victime d'amour miséricordieux s'appuie pas sur elle, sur sa force, sur sa générosité, sur sa dévotion sensible, sur Jésus. Elle s'appuie sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Et évidemment que cette offrande à l'amour miséricordieux du Seigneur, de notre Seigneur, miséricordieux Jésus, eh bien nous fait grandir dans trois grandes fonctions de l'amour, hein, qui est donc le compatir, savoir pâtir avec Jésus, pâtir avec notre prochain, donc grandir aussi dans l'amour à l'occasion de se pâtir. Nous aide à réparer, à expier, à satisfaire. Et ce, avec une grande simplicité. Vous pouvez lire là dans, comment elle s'appelait, cette petite Marie Chérie là de l'Oasis là. Comment c'est le titre, Une âme simple? Non, comment ça? Qui peut me dire ça? Voilà, Simplicité d'une vie. C'est très beau de voir. On s'imagine, la vocation de victime, qu'est-ce que ça doit être encore un truc. Non, pas du tout. C'est beau de voir comment petite victime d'humilité, miséricorde, faire des choses très 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 simples, sans complications, sans imagination, sans. Ça vaut la peine de le lire, lire la vie de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus ou cette vie-là. Au moins pour voir l'orientation de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'orientation de l'amour? Et comme me disait un des prêtres, un des abbés là pendant la retraite. Disait ça. Mon père, le mal fait de telles avancées aujourd'hui qu'il faut que nous fassions un pas de plus vers la Sainte Vierge, un pas de plus vers l'amour de Dieu. Le mal avance tellement, il se fait tellement. On voit qu'on approche de la fin des temps de plus en plus. Le démon est déchaîné. On sent que c'est une guerre totale. Il attaque partout. Personne n'est à l'abri. Personne. Aucune famille. Aucune personne. Tout le monde. Être victime des attaques du démon. Pas pour s'effrayer, mais partout. On ne peut pas dire, il y a un petit coin de terre, un petit oasis, une petite. Rien. Tous les êtres, à tous les âges, tous les milieux, partout. Alors, un pas de plus vers l'amour. C'est le moment des plus grandes victoires apparentes du démon, c'est le moment de ses plus grandes défaites. Père Kolb disait. C'est probablement le temps du Saint-Esprit. On n'a jamais vu le démon aussi déchaîné. Et c'est pourtant, ça va être les plus grandes victoires du bon Dieu. Des victoires petites par le cœur du Lord Immaculé Marie, par Saint-Joseph. Saint-Joseph va grandir. Plus la fin des temps va approcher, il va grandir comme terreur des démons. Comment Saint-Joseph, caché sous une table de sacristie pendant plusieurs mois, comme notre communauté, parce qu'on n'avait pas. C'est vraiment l'image Saint-Joseph. Celui qui est de côté, c'est le plus grand des saints après la Sainte Vierge. Le plus grand des saints, pas un petit saint. Et terriblement saint parce qu'il est terriblement humble et aimant. Et nous souvenir d'une chose pour conclure, une parole qui est très 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 forte, qu'il faut souvent méditer, bien réfléchir, par rapport à ce mal qui avance et cette offrande de nous-mêmes à la miséricorde du cœur douloureux, compatissant de Marie, elle était toute puissance suppliante, mais la Sainte Vierge est aussi toute puissance compatissante. Nous rappeler une phrase qui doit nous donner une grande force, grande, grande force, à travers toutes les batailles actuelles. Là-dessus, je voudrais un peu terminer pour les batailles actuelles. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin. Ça veut dire quoi? À la fin de mes efforts, à la fin de ma vie, à la fin des efforts sur ma famille, sur mes amis, à la fin, c'est quand même son cœur qui triomphera. C'est sûr, mais c'est à la fin. Et il faut croire à cette fin, et il faut aimer cette fin, et il faut faire venir cette fin en nous, maintenant, ici et maintenant, aujourd'hui. À la fin, mon cœur douloureux, compatissant et aimant triomphera, c'est sûr. Alors soyons du bon côté, comme dit le Père Kolb. Soyons du côté de la Vierge, de la Reine des Anges. Pourquoi le mal dans le monde ? Question Padre Pio. Écoute-moi bien. Imaginons une mère en train de broder. C'est un peu moins maintenant. Bon, ça existe encore, au moins les grands-mères. Son petit enfant assis sur un tabouret, en bas, il la regarde travailler. Mais par-dessous, à l'envers. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les nœuds de la broderie, il voit l'enchevêtrement des fils. Dis maman, qu'est-ce que tu fais ? Ton travail, il est tout embrouillé ? Alors sa mère abaisse le tissu et elle lui montre le bon côté de la broderie. Qu'est-ce qu'on voit ? Chaque couleur est à sa place et la variété des fils se fond dans l'harmonie du dessin. Nous, nous voyons l'envers de la broderie. Nous voyons à l'envers les choses. Nous voyons l'envers de la broderie. Nous, nous sommes assis sur le petit tabouret. Demandons au cœur immaculé de Marie de nous montrer, nous rappeler souvent qu'il y a un haut de la broderie qui est magnifique. Qui est magnifique. Vous êtes tous, tout appelés, mesdames, à une grande sainteté en Marie. Croyez-y. À être des femmes qui allaient rayonner Marie. Là où vous êtes, c'est sûr, c'est certain, et à cause d'elle, et pas à cause de vous. Croyez-y, hein, croyez-y. Bon, on va prier, chapelle.